Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans le tout premier épisode de Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Alors on a créé ce podcast avec une idée, y voir un peu plus clair dans cette course à l'Élysée. Oui, parce que le premier tour, c'est quand même dans moins de 80 jours. Alors avec les journalistes de la rédaction, on a envie de vous raconter chaque semaine cette élection si particulière, de vous en détailler les enjeux, de voir ce que les candidats ont dans le ventre, le tout eh bien assaisonné à l'esprit Libération. Un bon podcast avant d'aller voter. C'est notre devise pour 2022 et vous allez pouvoir même participer à ce projet. On vous dit comment, d'ailleurs, en description de ce podcast et au cours de ce premier épisode. Allez, on se lance ? Ce week-end, Éric Zemmour et Marine Le Pen s'affrontent par meeting interposé, lui à Lille, elle à Reims, au moment où le Rassemblement National connaît quelques défections. Alors depuis le début de la campagne, le camp nationaliste se déchire avec des trahisons, des histoires de famille, des fantômes qui reviennent. Les adeptes du grand remplacement sont également fans eh bien, du grand déchirement. Mais au final, qui va gagner ? Libellisé, premier épisode, extrême droite, la primaire sauvage. Alors on en parle de cette primaire sauvage avec Jonathan Boucher-Petersen. Salut.
Salut.
Alors tu es donc rédacteur en chef adjoint à la tête du service politique. C'est ta combienième campagne présidentielle ?
Alors en tant que journaliste, c'est ma troisième campagne. En tant que citoyen, c'est ma cinquième élection.
Très bien, voilà, avec toujours la même excitation.
Avec une excitation intacte et un casting un peu inédit.
Ouais, c'est ça. Et on va en parler aussi avec Nicolas Massol. Salut à toi.
Salut.
Alors tu suis l'extrême droite hein, pour Libération. Donc on peut dire que tu as un répertoire assez fourni en la matière hein, dans ton téléphone. Hein.
J'irai pas jusqu'à dire que je suis un fafologue, mais j'essaye de l'être.
C'est une voilà, c'est un beau mot, fafologue. Alors justement, Nicolas, juste au départ, pour beaucoup de gens, on se pose des questions. En ce moment, on voit des tensions, des camps nationalistes qui se déchirent. C'est quoi exactement l'ambiance actuellement dans les deux camps, Zemmour et Le Pen ?
Bah, disons qu'il y a vraiment deux salles, deux ambiances quoi. Il y a une ambiance d'excitation un peu jeune, un peu de gens qui se sentent plus, qui sont vraiment qui marchent un peu sur les nuages quoi, avec le tout matiné de pas mal de testostérone, de jeunes quoi. Donc ça c'est vraiment chez Zemmour, il y a vraiment ce côté chez Zemmour de masse militante galvanisée, jeune, beaucoup de jeunes hommes. Ça donne une ambiance comme ça un peu exaltée. Les meetings sont remplis, il y a énormément de monde, donc il y a vraiment une idée de dynamique autour de Zemmour qui n'y a pas du tout au RN. Au RN, les déplacements de Marine Le Pen se font de façon beaucoup plus resserrée, quoi. Il y a, elle voyage avec, allez, 5, 6, 7, 10 personnes maximum. Bon, c'est quand même plutôt, son équipe de campagne, c'est quand même plutôt des gens qui ont un certain âge, quoi. Son directeur de campagne, il a une soixantaine d'années, son beau-frère, qui est vraiment le grand Manitou de la stratégie, a aussi une soixantaine d'années. Donc ça respire pas le jeunisme nationaliste. Mais voilà, quoi, c'est un petit peu de... Voilà. Et on a un petit peu du mal à avoir des militants aussi chez ORN. Quoi.
Et ce qui est marrant, c'est ce que tu dis là aussi, Jonathan, c'est qu'on a l'impression qu'avec des vieux thèmes, Zemmour ringardise Le Pen.
Ouais, mais en même temps, Zemmour, c'est un peu le candidat inespéré pour toute une part du camp nationaliste. C'est-à-dire que Marine Le Pen était dans une théorie et une stratégie de la dédiabolisation maintenant depuis plusieurs années, qui du coup était une façon d'amoindrir son discours et de moins jouer sur les passions. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a une France qui est quand même nourrie à la haine, qui est nourrie à la stigmatisation, qui est décomplexée dans la façon de dire les choses et qui n'hésite pas à pointer le bouc émissaire, ça fait les belles heures de Jean-Marie Le Pen, mais ça a clairement trouvé ses limites sur le plan électoral. Donc dans l'idée de Marine Le Pen, qui est clairement dans une conquête du pouvoir, l'idée de d'adoucir, d'arrondir, de masquer, tout ça, ça fait baisser la température et ça fait baisser l'intensité autour de sa candidature. Ça lui a offert des scores que son père n'a jamais atteints. Et c'est vrai qu'il y a une forme de dichotomie, parce que d'un côté, on a cette exaltation dans les meetings d'Éric Zemmour et dans l'aéropage autour d'Éric Zemmour. Et en même temps, il était assez nettement décroché, même si on a le sentiment que rien n'est joué. Mais en tout cas, la petite musique depuis maintenant quelques semaines, c'est qu'il y a elle qui joue clairement quelque chose pour le deuxième tour et lui qui joue clairement quelque chose pour son identité politique et son affirmation sur la scène politique. Donc il y a parfois même un effet loop qui est un peu trompeur entre le dynamisme d'un côté et quelque chose d'un peu plus amorphe de l'autre. Voilà, il n'empêche que jusqu'à preuve du contraire, et on peut être démenti très vite parce que la volatilité, les électeurs bougent très fort. Mais en l'état, Marine Le Pen est devant, il faut le rappeler, et Éric Zemmour est derrière. Quand on regarde les chaînes d'infos, c'est pas toujours le sentiment qu'on a.
Nicolas, l'ambiance des meetings aussi. Alors on se souvient ce week-end, il va y avoir deux gros meetings. D'ailleurs, que Zemmour le fasse ce jour-là, c'est exprès, non? J'imagine samedi en face de Le Pen.
Bah écoute, oui, même si eux disent que non. Eux disent on fait des grands meetings une fois par mois, assez des réunions publiques assez régulièrement, soit le vendredi, soit le samedi. Donc évidemment, il n'y a aucun lien. Mais enfin bon, quand Marine Le Pen décide d'aller au Sable d'Olonne parce qu'il y a je ne sais quel statut de Saint-Michel qui risque d'être déboulonné,
on va y arriver.
Zemmour lui grille la priorité, il va avant elle. Enfin bon, c'est un spécialiste un petit peu de ça, quoi. Donc oui, effectivement, il y a une volonté d'écraser les deux milliers de militants marinistes qui en plus sont acheminés avec des cars gratuits. Donc c'est vraiment, on a vraiment raclé les fonds de tiroir. Et de l'autre côté, les Zemmouriens qui vont venir à entre 8 et 10 000, quoi.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, dans l'ambiance dans les meetings, par exemple, toi qui suis pour Libération, on se souvient que c'était pas toujours simple pour Libération de suivre les meetings du Front National. Aujourd'hui, est-ce que c'est simple pour un journaliste de Libération de suivre les meetings de Zemmour?
J'ai fait le meeting de Villepinte, le meeting de Villepinte, donc en décembre, il y avait beaucoup de tensions quand même chez les jeunes militants zémouriens qui, comme je le disais un peu en introduction, on sent un peu les bouffées d'hormones, c'est la première fois qu'ils se retrouvent, c'est souvent un primo engagement politique, ils sont galvanisés par la radicalité, donc oui, effectivement, c'était pas très agréable, d'autant que il y avait les journalistes de Quotidien qui se retrouvaient au milieu, donc non, c'était pas agréable du tout. Quelques insultes, des provocations, mais je ne saurais pas te faire de comparatif avec les meetings du Front National, parce que étant un tout jeune suiveur de ces partis-là, moi je n'ai pas connu de vrais meetings du Front National. J'ai connu des meetings de cadres ou à Fréjus là pour la rentrée, où on met 2000 cadres qui sont payés en fait par le parti ou par qui sont sur des listes, donc ils doivent tout à Marine Le Pen, mais des vrais militants en meeting Front National qui gueulent on est chez nous, ça je j'en ai pas connu.
Non, mais ça ressemble plus les meetings de Zemmour aujourd'hui, c'était en gros les 1er mai historiques des défilés de Le Peniste, toute cette jeunesse nationaliste adepte du coup de poing. Le fait qu'il se soit transféré de Le Pen à Zemmour, ça change beaucoup l'ambiance et le rapport à la presse. D'une certaine manière, les meetings de Zemmour dans le rapport à la presse, ça ressemble à ce qu'on a pu voir dans les manifs anti-vax ou anti-pass autour de Philippot, avec effectivement les mots de collabo, les mots de cette idée que la presse est un ennemi, quoi.
Bah Nicolas,
il y a vraiment une stratégie dans l'équipe de Marine Le Pen de cajoler les journalistes. C'est-à-dire que et ça a quelques mois, hein, ça a 3-4 mois. Moi, quand j'ai commencé, donc il y a moins d'un an, c'était pas exactement comme ça. C'était un petit peu dur, on sentait la tension. Là, l'équipe de Marine Le Pen nous cajole, quoi, vraiment.
On a eu droit du cher ami, par exemple, quoi, qui était pas vraiment ça, quoi. Alors que c'est vrai que quand on suivait, l'émetteur Libération, quand on posait une question, on était déjà flingué et elle se posait plutôt la question de savoir comment elle allait avoir la petite répartie un peu humiliante devant le reste des collègues. Là, aujourd'hui, il y a quelque chose de. Mais c'est l'éleveuse de chats, c'est la femme blessée, c'est sœur sourire. Enfin voilà, c'est toute la stratégie de Marine Le Pen aujourd'hui.
Il y a une chose aussi qu'on a un peu de mal à comprendre, Nicolas, c'est quand on regarde Éric Zemmour, là, on a assisté à quelques ralliements. Alors, ce n'est pas forcément les gens les plus médiatiques, mais c'est des prises qui embêtent Marine Le Pen, on le voit en ce moment. Pourquoi finalement ces gens se rallient juste dans la technique politique? Pourquoi ils se rallient au moment où Zemmour est plus bas dans les sondages qu'à l'automne où il était plus haut?
C'est une bonne question. La réponse est sans doute à chercher dans l'après, quoi. C'est-à-dire que ces gens-là ont acté la défaite de leur camp, c'est-à-dire de l'extrême droite. Personne ne peut croire que Marine Le Pen ne gagnera. Ce qu'elle peut espérer de faire de mieux, c'est de perdre à entre 40 et 45%. Ça, c'est un peu le rêve. Ce serait une sortie honorable. De même, chez Zemmour, maintenant qu'il stagne entre 10 et 12%, on n'espère pas. Donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ensuite.
Mais juste pour répondre sur ça, Éric Zemmour, dans un premier temps, c'est le jaillissement de l'homme providentiel. C'est le jaillissement d'un homme qui décide de prendre ses responsabilités. Son principal argument pour dire, pour justifier sa candidature, c'était de dire de toute façon, tout le monde sait qu'elle ne peut pas gagner, elle, Marine Le Pen. Donc en creux, c'était une façon de dire, moi, je vais créer une autre dynamique que ça. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la nature des ralliements, au-delà des quelques cadres RN qui ne sont pas des cadres d'absolu premier plan, Gilbert Collard a une surface médiatique, mais bon, c'est Gilbert Collard. Il n'y a pas une proposition de loi qui vient de Gilbert Collard, il n'y a pas de réseau Collard, mais c'est une figure médiatique qui permet de faire un week-end sur BFM TV, en gros. Mais derrière, il y a encore ces jours-ci le Parti de la France de Karl Lang. Quand on voit un Bruno Maigret qui tout d'un coup revient, 36-15, j'existe. Et quand on pointe un peu les figures qui basculent, c'est des figures qui ou étaient déjà marginalisées au Front National, ou restaient juste par appât du gain ou pour avoir la petite indemnité parlementaire, mais c'est pas le premier cercle des marinistes en phase avec sa stratégie plus sociale.
Alors je vous le disais dans l'intro de ce podcast, on aimerait bien partager ça avec vous et donc on attend bien sûr vos messages sur libellisé@libération.fr. Alors vous imaginez bien que pour un premier épisode, nous n'avons pas exactement croulé sous les mails et les messages vocaux. Alors, on a quand même rencontré quelques personnes qui nous ont bien donné leurs sentiments par rapport au sujet du jour. Et c'est le cas de Sabrina qui, elle, se demande s'il n'y a pas autre chose derrière ce possible rapprochement entre Marion Maréchal et Éric Zemmour.
Bonjour Sabrina, 38 ans de Rennes. J'ai une question. Est-ce que si Marion Maréchal rejoint Éric Zemmour, est-ce que ce duo a la capacité de passer devant Marine Le Pen au premier tour en convainquant finalement un électorat féminin qu'il n'a a priori pas ?
Voilà, alors on a entendu à l'instant là, Sabrina. À ton avis, Nicolas, est-ce que l'une des épines aujourd'hui dans le pied d'Éric Zemmour, c'est le fait qu'il n'imprime pas du tout auprès des femmes et qu'il a eu en effet en plus des déclarations assez outrageantes. Et le fait de s'associer à Marion Maréchal, est-ce qu'il y a un peu de ça aussi derrière cette alliance ?
Personnellement, je pense pas, mais après là c'est un avis personnel. Marion Maréchal, c'est quand même quelqu'un qui est très identifié à l'extrême droite plutôt catholique. Vous voyez, c'est le genre d'extrême droite qui n'a jamais vraiment apprécié la loi Veil sur l'avortement, qui est plutôt voilà sur des conceptions assez traditionnalistes de la famille. Donc voilà, donc certes le fait que Marine Le Pen est vraiment comblée en disant le gender gap, hein, le fait que moins de femmes votaient pour l'extrême droite que d'hommes. Vient à la fois certes voilà du statut de femme de Marine Le Pen, mais aussi quand même d'un programme, d'une posture moi candidate du Rassemblement National, je protège les femmes contre les menaces qu'elle désigne comme étant le harcèlement de rue, etc., ce genre de choses quoi.
Marine Le Pen, Marion Maréchal, pardon, elle a quitté la scène politique en gros en 2019 et à l'époque elle était quand même une personnalité très scrutée et très commentée par les sondages et on se rendait compte que, au-delà de l'aéropage du Rassemblement National, elle parlait à une partie de LR. Quoi qu'on en dise, figure un peu glamourisée, jeunesse, voilà, toute chose qui accroche bien la lumière dans les médias. Et elle a une façon de dire les choses qui sont complètement aussi trash qu'Éric Zemmour, mais d'une façon quand même plus soyeuse et sans les dérapages. C'est-à-dire d'une manière, elle organise des événements où Éric Zemmour vient déraper, ça a été longtemps ça ce qu'elle faisait ces dernières années, mais elle a une façon de dire les choses avec le sourire, de façon assez posée, de façon presque intellectualisée aujourd'hui, en tout cas c'est les atours qu'elle se donne, mais il n'y a pas cette espèce de virilisme qu'on entend parfois chez Zemmour ou chez certains de ses partisans. Donc sans dire que le fait qu'elle soit une femme peut ramener le vote des femmes, sa façon de parler, sa façon de faire de la politique, je pense peut rassurer une partie d'un électorat bon, féminin notamment, mais un électorat notamment de droite, traditionnel, très catholique, qui retrouve chez elle les valeurs qu'elle attend et qu'elle défend.
Émile Nicolas, est-ce qu'aujourd'hui il y a une vraie crainte, même au Rassemblement National, d'être asséché par Zemmour, ou alors on voit, comme le disait Jonathan tout à l'heure, les prises sont ce qu'elles sont, en gros, ce n'est pas non plus encore la grosse prise de guerre. Quoi.
Depuis une semaine, quand même, la fibrillité, elle est, on peut la percevoir assez facilement au Rassemblement National, puisque il a suffi que des rumeurs de Marion Maréchal Le Pen, voyant des journalistes parisiens, arrivent aux oreilles de Marine Le Pen, pour que directement, le camp Le Pen balance quelques boules puantes dans la presse sous couvert de off, que Marine Le Pen sorte vraiment les violons sur CNews vendredi dernier, où elle dit que vraiment elle se place en femme trahie qui a élevé sa nièce qui maintenant l'a trahie, que c'est très dur, etc., ce qui est évidemment une partition quand on sait la dureté avec laquelle Marine Le Pen a traité sa nièce lorsqu'elle était au parti.
C'est génial parce que t'en parles exactement comme Succession en fait, hein, c'est la série Succession. succession là en fait, hein, véritablement.
Mais c'est vraiment un jeu de rôle parce que il y avait sûrement d'ailleurs, on peut pas complètement nier qu'il y ait, que ce soit un moment familial un peu compliqué. Mais j'allais dire Marine Le Pen, elle a été d'une dureté dans la gestion de ce parti. Elle a purgé, comme on disait, l'ensemble des proches de Marion Maréchal dès que Marion Maréchal a un peu quitté la scène politique. Et si Marion Maréchal est partie à l'époque, c'est pas juste parce qu'elle avait envie d'ouvrir une école ou de vivre sa vie ou d'aller dans le privé. C'est que clairement, elle ne trouvait plus sa place. Elle n'avait pas de communication avec Marine Le Pen. Et Marine Le Pen finissait presque par la considérer comme un problème. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la séquence, on a l'impression que c'est l'histoire de famille en plein jour. Et ça nous ramène aux tensions qu'il y a pu y avoir entre Marine Le Pen et son père. Donc il y a toujours un côté Dallas de la politique. Mais derrière ça, il y a des lignes politiques qui sont vraiment très différentes. Et il y a une humanité qui est quand même très absente des relations politiques, même au sein de la famille Le Pen.
Une chose, Nicolas, on a vu alors le patriarche, puisqu'on est dans cette histoire de famille, Jean-Marie Le Pen appelait Marine Le Pen et aussi Marion Maréchal à venir déjeuner, tirer les rois chez lui. Finalement, il n'y a que Marine qui est allée. C'est encore un poids, Jean-Marie Le Pen, ou pas ? Est-ce qu'on t'en parle, toi, quand tu vas dans des meetings, quand tu rencontres les électeurs du Rassemblement National ?
Non, objectivement, moi, la majorité des gens que je rencontre, c'est quand même un vieux monsieur, hein, il a plus de 90 ans. Sa parole, il conserve une forme de pouvoir de nuisance, mais un petit peu à la marge, quoi. C'est-à-dire que il a fait une déclaration dans Le Monde en septembre qui a un petit peu agacé. Où en gros il disait que il penchait plutôt pour Zemmour, que ça l'intéressait. Ensuite il a fait une interview dans le Télégramme en décembre où il a plutôt dit finalement Zemmour était trop radical. Franchement, c'est un vieux monsieur. Je pense pas qu'il symboliquement peut-être, mais non, c'est plus. C'est
non,
plus
il se fantasme en vieux sage de l'extrême droite. Et c'est vrai quand on voit le dynamisme électoral qu'il y a avec Zemmour plus Le Pen, c'est vrai que ça représente un poids inédit sur la scène politique française. Donc c'est vrai que voir les trains passer tout en étant, au garage, c'est compliqué. Du côté de Marine Le Pen, c'est plus un boulet que quelqu'un qui a du poids. Hein, ça faut pas se mentir. Ça fait longtemps qu'elle a mis beaucoup de temps à tourner la page. Le changement de nom du parti était un peu le point final de ce psychodrame. Donc c'est vrai que si ça avait pu se gérer sans lui, ça l'arrangerait bien côté Marine Le Pen. Après, ce qu'on a du mal à mesurer, c'est est-ce que pour Éric Zemmour, ce serait vraiment quelque chose de positif si tout d'un coup Jean-Marie Le Pen disait c'est l'homme qu'il faut à la France. C'est même pas sûr, parce que Éric Zemmour, sa promesse, c'est pas tant d'être sur le noyau rabougri de l'extrême droite nationaliste, qui est globalement ce qu'il arrive à fédérer aujourd'hui avec quelques éléments en plus, mais c'est vraiment d'aller faire l'union des droites. Sa promesse et ce qui fait fantasmer Marion Maréchal, c'est ça. Donc c'est vrai, pour aller séduire un électorat LR, il n'y a pas plus repoussoir que Jean-Marie Le Pen. Ils n'ont pas beaucoup de principes, l'électorat LR aujourd'hui. Ils se sont beaucoup radicalisés, sciotisés, tout ce qu'on veut. Mais il y a bien une figure un peu historique qui continue à être l'anti-De Gaulle, l'homme de l'Algérie française, le problème de l'antisémitisme, le révisionnisme, les négations de crimes contre l'humanité. On est quand même sur des gros boulets pour un candidat qui veut élargir le spectre.
Alors moi, j'aimerais justement vous faire écouter un témoignage. Tout à l'heure, je parlais de ces messages et notes vocales que l'on peut laisser sur libellisé@libération.fr. Alors en attendant d'en avoir des milliers, des millions, des tonnes en tout cas de ces témoignages, on en a récupéré un, et c'est celui de Sophia. Elle habite Béziers et vous allez voir ce qu'elle dit, elle, c'est assez concret.
Bonjour, je m'appelle Sophia et je vis à Béziers qui, comme chacun le sait, est une terre du Rassemblement National. Je fais partie des quelques citoyens de gauche dans cette ville. Je vois depuis plusieurs années les gens dire laissons l'extrême droite à l'épreuve du pouvoir et puis de toute façon ils n'y résisteront pas. Or je suis bien placée pour savoir que ce n'est pas le cas et que finalement les idées extrémistes, racistes, sexistes infusent peu à peu. Voilà donc ce que m'inspirent les campagnes de Le Pen et Zemmour, et si vous avez quelque chose à dire là-dessus, ça m'intéresse.
Alors Nicolas, on a l'impression aussi qu'on voit Marine Le Pen qui s'appuie aussi sur ses mairies. Robert Ménard n'est pas adhérent au Rassemblement National, mais il soutient Marine Le Pen. C'est vrai que finalement, cette épreuve du pouvoir, elle n'est pas si chaotique que ça pour l'extrême droite aujourd'hui en France, et donc elle ne la sèche pas.
Donc en fait, alors que dans les années, on va dire 90, à l'époque où le Front National découvrait le pouvoir municipal avec l'intention de d'appliquer leur programme, préférence nationale, racisme institutionnel, etc. Là, le pari du Rassemblement National depuis 2014, depuis qu'il regagne des mairies, en fait, c'est de les gagner plutôt avec un truc de divers droite / extrême droite plutôt que vraiment une étiquette conquérante de attention, nous on va faire la reconquista à la Zemmourienne. Donc en fait, un type comme Robert Ménard, lui, effectivement, il a nettoyé le centre-ville au sens où il a vraiment essayé de rénover le centre-ville, etc. Mais il le dit clairement. Il le dit clairement aujourd'hui que les provocations qu'il faisait il y a quelques années, il les ferait plus maintenant.
Juste une dernière chose, Nicolas, quand on a fréquenté les meetings, a fréquenté les militants, et notamment Éric Zemmour, qui est donc le personnage qu'on connaît le moins, même si on le connaît en tant que journaliste, mais en tant que personnalité. C'est quoi le rapport des militants avec Éric Zemmour? Lui s'imagine comme un homme providentiel. Est-ce qu'il l'imagine vraiment un homme providentiel?
Ah oui, il y a un aspect vraiment totalement ridicule d'idolâtrie la plus totale pour Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, en fait, c'est quelqu'un qui flatte énormément, on va dire, l'orgueil mal placé de toute une classe, je pense, moi, de la société, quoi. C'est en gros la bourgeoisie de droite qui a des envies de culture, ou en tout cas des prétentions à être cultivée. Donc en fait, quand Éric Zemmour, c'est assez marrant ça, moi je me souviens d'un moment, par exemple, c'était à Nîmes, où Éric Zemmour parle des bouquins qu'il faudrait lire, quoi. Alors il dit Chateaubriand, il dit Cardinal de Ré, enfin vraiment les trois références qu'il étale à chaque fois, et tout le monde s'est mis à la applaudir, à se rengorger. Et en fait, il y a vraiment ça, quoi. C'est-à-dire, il y a l'idée que dans ce monde politique où, depuis De Gaulle, depuis Pompidou, les Français sont très sensibles à ça, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se dit. Zemmour est un intellectuel cultivé, qui parle bien, qui a des références littéraires, culturelles. Donc, en fait, ça flatte vraiment à la fois les anciens et en même temps les jeunes qui sont dans une idolâtrie totale. Mais il y avait vraiment le cœur militant, on va dire, de la Zemmourie, c'est Génération Zemmour. Et qui sont effectivement dans une idolâtrie totale, puisque je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, là, on a vu une vidéo d'Éric Zemmour en train de jouer au tennis.
Tout à fait, oui.
Assez mal d'ailleurs.
Alors c'est assez bizarre, oui, parce qu'on ne voit pas son adversaire en plus, c'est ça qui est bizarre.
On ne voit pas s'il met des balles dans le terrain, quoi, parce que franchement. Enfin bon,
c'était une vidéo en effet diffusée sur le compte de Reconquête, notamment sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et donc, par contre, j'ai appris un terme avec toi, Nicolas, c'est la Zemmourie, c'est ça, on dit la Zemmourie?
Oui, alors la Zemmourie, la Le Penny, c'est peut-être que... Oui, c'est peut-être, c'est des choses que je dis comme ça, mais bon.
Ah non, mais la Zemmourie, très bien. Bah,
il n'y a jamais eu, même quand Marine Le Pen était plus en dynamique, elle n'était pas contestée, il n'y a jamais eu cet amour militant. Elle a essayé de le développer. Il y a quelques scènes, évidemment, quand on va faire un marché dans une ville RN, on trouve toujours trois personnes pour avoir envie de faire un selfie, mais elle n'a jamais galvanisé les foules. C'est une très mauvaise oratrice. On se posait la question avant de Villepinte de savoir est-ce que le chroniqueur Éric Zemmour était capable de faire des discours qui transportent, qui galvanisent, qui tiennent une salle. Clairement, c'est le cas. Est-ce que ça suffit dans une campagne électorale? C'est pas dit. Mais c'est vrai que la folie qu'il y avait autour de Macron la dernière fois avec ce personnage qui débarque, qui fait envie, en tout cas une partie de l'électorat, lui retrouve ça. Donc c'est sur des credos de haine et beaucoup moins de progressisme ou de valeurs positives. Mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre du réveil français qui s'incarne par ce personnage-là. C'est un réveil très franchouillard et assez faussement lettré, mais pour l'instant, ça marche.
Voilà, même son slogan, c'est ça qui est marrant, Impossible n'est pas français, c'est quand même un film avec Pierre Mondy. C'est ça qui est assez étonnant des années 70. Alors justement, on parlait de Pierre Mondy, c'est un peu la culture aussi, Pierre Mondy. Pour conclure cet épisode, en fait, chaque semaine, on va vous recommander un livre, un film, un disque à écouter en fonction de la thématique. Alors, moi, cette semaine, j'ai envie de vous recommander un docu qui s'intitule Steve Bannon, le grand manipulateur. Alors, il est disponible en VOD sur YouTube. Et c'est une réalisatrice, Alison Kalimann, qui suit le gourou de l'extrême droite américaine en Europe, avec un projet, en fait, unir les populistes. Alors, c'est bizarre parce qu'au casting, on retrouve un certain Louis Alliot et ça rappelle même un certain discours actuel.
What did I just watch? Are you now consulting for the National Rally Party?
In your point. Some of the people you're doing business with here in Europe are connected to neo-fascism. Energizing hate, hate black people, hate Muslims is not right.
D'ailleurs, je crois Jérôme Rivière, c'est...
Ouais, c'est ce que je disais. Jérôme Rivière, c'était lui qui avait fait le go-between à l'époque pour la rencontre. Mais clairement, voilà, ça, on voit bien que ce qui s'inscrit dans la logique Trump ou la logique Bannon, elle est beaucoup plus du côté Zemmour que du côté Le Pen.
Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est à regarder. Alors, pourquoi pas une BD? Moi, j'en ai repéré une. C'est La Présidente, qui est signée François Durper et Farid Boudjelal, qui imagine l'arrivée de Marine Le Pen à l'Élysée. Bon. Et pour la musique, pour les Le Pen, c'est normal, Sister Sledge avec We Are Family. C'est la fin de ce premier épisode de Libellisé. Alors merci Jonathan, merci Nicolas. Avant de se quitter, un petit message de service. Si ce podcast vous semble prometteur, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire sur toutes les applications de podcast et streaming. Et c'est la bonne façon de ne rater absolument aucun épisode. Alors si vous êtes déjà conquis, encore mieux, laissez-nous des commentaires et des notes. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles minimum, je pense. Ça permettra à d'autres de découvrir ce nouveau rendez-vous. On se retrouve, nous, jeudi prochain. Si vous voulez participer, d'ailleurs, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisé@libération.fr. On compte sur vous et nous, on se dit à très vite.